avec en direct par téléphone Laurent de Sutter. Merci beaucoup d'être avec nous en ligne.
Merci à vous de votre invitation.
Nous parlons de votre dernier livre, Indignation totale, ce que notre addiction au scandale dit de nous, qui est paru il y a plusieurs mois aux éditions de l'Observatoire. Voici la position de départ. Voici ce que vous écrivez dans votre avant-propos. Vous nous interpellez. Je vous cite. Vous êtes un citoyen quelconque d'un pays quelconque de l'Occident épuisé. Vous êtes fatigué de l'indignation au point de parfois en arriver à soutenir que seule elle, désormais, vous indigne encore. C'est sans doute votre position.
C'est une espèce de fiction narrative, si vous voulez, dans la mesure où ça raconte, cette espèce d'incipit raconte en réalité davantage la naissance du livre qui ne raconte ma position et certainement pas ma position actuelle, puisque ce qui s'est passé avec ce livre, c'est qu'en réalité, c'est une espèce de commande qui m'est un peu tombée dessus un jour dans un couloir de France Culture. Je sortais d'une émission, d'Adèle Van Rett, quand j'ai été attrapé comme ça dans un corridor par quelqu'un qui enregistrait des petites capsules, pour Internet, qui portaient toutes sur le même sujet qui était « qu'est-ce qui vous indigne aujourd'hui ?» Moi, ça m'a fait rire. Je vous dis « mais moi, il n'y a rien qui m'indigne aujourd'hui. » Enfin, si, il y a peut-être un truc qui m'indigne aujourd'hui, c'est l'indignation. Mais sous-entendu « ha 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 ». Et la personne à ce moment-là m'avait fait « ah ben c'est génial, on enregistre cette vidéo, vous nous racontez ça, et puis c'est super, bon, on l'a fait ». La capsule, malheureusement pour moi, a très bien fonctionné, de telle sorte qu'en fait Adèle Van Rett est revenue vers moi quelques mois plus tard pour me dire « est-ce que tu ferais pas un livre pour ma collection sur ce sujet-là » Et puis voilà, donc c'était le point de départ, mais c'est certainement pas le point d'arrivée, parce que je pense qu'au contraire, il est même très important aujourd'hui, où la tentation est forte, si vous voulez, de s'élever contre l'indignation comme un phénomène qui serait un phénomène indigne de nous, indigne des grands esprits ou des beaux esprits que nous pourrions être. Je pense qu'il est très important, au contraire, de la prendre extrêmement au sérieux dans ses complexités, ses ramifications, et qu'il est très important d'essayer de comprendre comment elle fonctionne, plutôt que de vouloir la dénoncer ou précisément s'en indigner, dès lors qu'évidemment s'en indigner, c'est juste reconduire son propre mode de fonctionnement, mais sur un objet légèrement différent.
Dans votre introduction, vous écrivez également, et vous employez ce terme fort, de police de l'indignation. Vous écrivez « Penser la police de l'indignation requiert par conséquent de proposer une nouvelle interprétation du rôle joué par la raison dans la constitution de son pouvoir qui remet en cause cet héritage et aide à dégager un autre partage du possible et de l'impossible ». Il y a donc cette liaison entre indignation, et en utilisant l'expression de police de l'indignation, du terme et du concept de raison, et aussi de ce qui serait possible et de ce qui serait impossible.
Oui, tout à fait. Il s'agit bien d'une police, si on entend par police, évidemment pas simplement les gens qui patrouillent dans les rues avec des matraques et qui énucléent les manifestants dans les rues de Paris ou d'ailleurs. Il faut entendre police comme véritablement force de maintien de l'ordre, si vous voulez. Les forces de maintien de l'ordre, c'est pas juste effectivement des personnes, des matraques et des autopompes, mais c'est effectivement toutes des modalités de pensée qui maintiennent en place comme ça, de manière parfois extrêmement dure, extrêmement violente, la manière dont nous établissons notre relation avec nos relations avec la réalité, avec les phénomènes qui nous entourent, etc., etc. Donc, ce que j'ai voulu effectivement raconter dans ce livre, c'est à travers un certain nombre de cas, comme ça, cas très contemporains que tout le monde connaît, qui vont de hashtag MeToo à la photo du petit Alan Kurdi échoué sur cette plage, le petit réfugié échoué sur une plage de Bodrum en Turquie. Bon, à travers un certain nombre de cas très connu, j'ai voulu raconter effectivement la manière dont aujourd'hui il y a quelque chose qui s'exprime à travers l'indignation et qui est effectivement de l'ordre du maintien de notre pensée dans un état qui est un état apeuré, si j'ose dire, ou un état anesthésié, un état inquiet, ou en tout cas un état qui n'ose pas remettre en cause ou qui n'ose pas discuter de la manière dont effectivement ce qui est possible et ce qui est impossible aujourd'hui, c'est-à-dire au fond ce qui est pensable et impensable, dissible et indicible, se trouve structuré. Donc j'ai voulu utiliser l'indignation comme une manière de réfléchir à cela, parce que l'indignation, en gros, et c'est l'intuition que j'ai voulu défendre dans ce livre, contrairement à ce qu'on raconte très souvent, et à nouveau, contrairement à ce que les esprits forts tentent à dire à longueur de colonnes de journaux ou bien de chroniques radiophoniques ou de posts énervés sur les réseaux sociaux, ce n'est pas du tout l'incarnation d'une forme particulière de bêtise ou d'une forme particulière de débordement des passions dans l'espace public qui témoignerait au fond d'une espèce de d'abrutissement généralisé, mais l'indignation, avec toutes ses impasses, ses problèmes, ses difficultés, bien évidemment, mais enfin, l'indignation est davantage que cela, à mon avis en tout cas, est véritablement l'incarnation de la manière dont la raison travaille l'ordre du pensable aujourd'hui. C'est-à-dire que l'indignation n'est pas le contraire de la raison, l'indignation serait peut-être, et c'est l'hypothèse que je défends en tout cas, serait peut-être son incarnation la plus réussie, la plus achevée, si évidemment on comprend par raison autre chose qu'une simple trivialité, mais qu'on s'intéresse à véritablement l'histoire de la raison et à la manière dont la raison que nous utilisons aujourd'hui est un héritage, et un héritage qui fonctionne autour d'un certain nombre de catégories, qui sont des catégories que nous avons l'habitude de considérer comme parfaitement naturelles, mais dont il se pourrait très très bien que l'indignation nous révèle aujourd'hui qu'elles sont en réalité problématiques et qu'elles l'ont toujours été.
Donc pour expliquer, pour illustrer votre thèse, il y a cinq chapitres. Cinq chapitres qui ont des titres forts, qui signifient quelque chose. Le premier chapitre s'appelle « Et ». Il concerne le scandale MeToo, vous parlez du scandale MeToo. Le deuxième chapitre s'appelle « Car ». Vous revenez sur l'affaire des caricatures de Mahomet. Le troisième chapitre s'appelle « Donc ». Il s'agit de la technocratie européenne et comment peut-être lutter ou comment être scandalisé de cette technocratie. Le quatrième chapitre s'appelle « Mais ». Et nous avons affaire un combat aux États-Unis contre une multinationale. Donc ça pourrait être le combat contre les multinationales. En l'occurrence, là, il s'agit de Nestlé. Et puis le dernier chapitre, le cinquième, s'appelle « Ni ». Vous revenez sur la guerre en Syrie et la crise des migrants à travers ce petit garçon mort sur une plage échouée. Il y a une grande logique dans ces cinq chapitres qui seraient, pour vous, et on comprend à quel point ils le sont, cinq traits de l'indignation, d'abord « et », ensuite « car », puis « donc », et puis il y a aussi « mais », et enfin « ni ».
Oui, vous aurez compris, je pense que à chaque fois, ce que j'ai voulu faire, c'était pointer, à travers un de ces, donc c'est les cinq cas que vous avez rappelés, j'ai voulu pointer un opérateur, qui est en l'occurrence ici un opérateur grammatical, mais un opérateur grammatical qui à chaque fois renvoie à une opération de pensée, que ce soit mais ou que ce soit mais, que ce soit car, que ce soit ni. Bon, il s'agit à chaque fois de mode, si vous voulez, d'inscription de nos paroles dans un système qui est un système d'embrayage. C'est-à-dire, lorsque vous dites quelque chose, vous soutenez comme ça une espèce de proposition en disant, par exemple, je ne sais pas, effectivement, Donald Trump est véritablement un énorme crétin. Il n'est pas impossible que quelqu'un, que vous l'exprimiez sur les réseaux sociaux à nouveau, que vous l'exprimiez dans un dîner en ville, ou que vous l'exprimiez dans un cadre professionnel en tant que, je sais pas, disons, éditorialiste ou commentateur de l'actualité, il y aura toujours quelqu'un en face, soit directement, soit indirectement, qui vous répondra « oui mais », si vous voulez. « Oui mais », c'est fort bien de dire cela et de d'ensuite établir les preuves, si vous voulez, par neuf de la débilité du président des États-Unis, mais en réalité, vous n'avez pas tout à fait compris, il y a quelque chose dont il est question. Et de même, on peut continuer comme ça. Je soutiens cette position, voulant qu'il ait question d'autre chose, parce que, si vous voulez, j'ai des très bonnes raisons de le penser, car j'ai des raisons de le penser, etc., etc., etc. Si j'ai donné tous ces titres à ces chapitres, c'était pour insister sur ce côté-là, c'est-à-dire sur le fait que l'indignation aujourd'hui s'inscrit dans un cadre qui est un cadre extrêmement articulé, et qui en réalité est véritablement le cadre des articulations de notre parole. Hein, mais, car et les autres sont les endroits, si vous voulez, où les phrases qui sont les nôtres, et donc les idées qui sont véhiculées à travers ces phrases, s'embrayent, s'embranchent, d'une manière désaccordée, avec celles qui les précèdent, soit bien évidemment pour les rejeter, soit au contraire pour solidifier une position qui serait la nôtre. Donc ce que j'ai voulu dessiner avec ces titres, c'est effectivement une espèce d'espace qui est un espace qu'on pourrait nommer agonal, si vous voulez, un espace réglé de la parole, dans lequel ce qui compte est évidemment, comme toujours dans les espaces de la parole, ou en tout cas dans l'espace de la parole tel que nous l'avons hérité, si vous voulez, du développement de l'opinion publique moderne, du développement des médias modernes, etc., qui est un espace du tort et de la raison. C'est-à-dire un espace, en gros, de la victoire et de la défaite. Et ces cinq opérateurs sont, à mon avis, des opérateurs qui expliquent, en effet, pourquoi l'indignation est tellement prise dans notre vie, pourquoi l'indignation est si importante dans notre vie, et pourquoi, surtout, cette indignation est si forte et si, d'une certaine manière, insoluble. Qu'il s'agisse, bien évidemment, de l'embrasser, qu'il s'agisse de la rejeter, il y a une espèce de cul-de-sac ou de carrefour problématique qui s'incarne comme ça dans la figure du scandale, parce que la figure du scandale est ce qui permet de donner une cause au déploiement de cet appareil d'articulation, qui est effectivement un appareil d'articulation sur lequel la raison repose, de lui donner une cause qui lui permette de se déployer, et en se déployant, qui structure la relation que nous avons avec cette cause, par exemple la politique américaine et la figure de Donald Trump, de le structurer sur un mode qui est un mode absolument binaire, c'est-à-dire ou bien vous considérez que Trump est un crétin, ou bien vous considérez que Trump est véritablement un génie qui est en train de sauver l'Amérique. Mais il n'y a pas, d'une certaine manière, de demi-mesure ou de possibilité tierce à l'intérieur de cet espace. Vous êtes soit libéral ou démocrate, soit vous êtes républicain, de la même manière que soit vous êtes, je ne sais pas moi, mangeur de viande, soit au contraire vous êtes contre cette affaire-là, soit vous êtes pro hashtag MeToo, soit vous êtes contre hashtag MeToo, etc. etc. Tous les cas, toutes les difficultés que nous rencontrons et qui naissent de scandale s'inscrivent dans un espace qui est structuré suivant cette binarité. Mais cette binarité n'est pas nue. Il ne s'agit pas juste de convictions que nous avons. C'est pas juste un truc comme ça profond, l'expression d'une espèce de cri du cœur ou de viscéralité. C'est véritablement quelque chose qui s'articule à l'aide d'arguments, à l'aide de faits, à l'aide de recours à des références, à l'aide de documentation. Si vous fréquentez les réseaux sociaux, vous devez savoir que un des sports favoris qu'on y joue est celui de l'échange et de se balancer dans la figure des liens, des articles, des interviews, des vidéos, etc. Tiens, t'as vu ça, je t'avais bien dit qu'effectivement, aujourd'hui, manger du blé, c'est véritablement quelque chose de dangereux pour les maladies cœliaques, etc. etc. Bon, donc si vous voulez, les échanges naissant d'un scandale sont des échanges qui ne sont pas juste des échanges qui prennent la forme du cri, mais la forme d'une véritable construction, qui est une construction argumentée, solide et rationnelle. Nos indignations sont des indignations rationnelles, et des indignations dont la rationalité s'inscrit à l'intérieur d'un espace, qui est un espace historique, hein, qui est effectivement l'espace de la rationalité de l'espace public, dont certains philosophes connus, je pense à Jürgen Habermas par exemple, ont pu à une certaine époque se faire les champions. Et à l'intérieur de cet espace de la parole, qui est un espace réglé, eh bien au fond l'indignation est ce qui permet de voir ce que cela signifie de respecter les règles de cet espace. Parce qu'en réalité, s'il y a une chose sur laquelle on ne renonce jamais quand on s'indigne et quand on s'engueule sur les réseaux sociaux ou dans les dîners en ville ou avec un oncle complètement crétin, s'il y a une chose sur laquelle on ne cède jamais, c'est sur le fait qu'il soit possible, quels que soient les moyens que nous utilisions, effectivement d'avoir raison ou d'avoir tort, et qu'il est important d'avoir raison ou d'avoir tort, ou en tout cas de pouvoir faire la part des choses entre raison et tort, pour pouvoir effectivement s'attribuer ou attribuer à la position que nous défendons quelque chose comme une validité qui excède notre simple goût ou qui excède notre simple caprice. Donc il y a un lien très fort, pour moi en tout cas, entre constitution de l'espace public, dans la modernité en l'occurrence, peut-être qu'on pourrait en dire un mot dans un instant, réglage de la parole, argumentation et rationalité, déploiement rationnel de la parole, et effectivement indignation qui semble pourtant être le lieu du cri au sens le plus pur et le plus viscéral du terme.
Si bien qu'il y a un scandale de l'indignation qui entraînerait une police du pensable. Et alors, en conclusion de votre livre, Indignation totale, ce que notre addiction au scandale dit de nous, dans votre conclusion, Laurent de Sutter, j'aimerais qu'on prenne vraiment, vraiment le temps de votre conclusion, parce que votre conclusion, elle aussi, est à contre-courant et elle nous donne beaucoup à penser. Je vais vous citer. Au lieu de se scandaliser face à ceux qui se disent scandalisés, Il vaudrait mieux se poser la question de savoir s'il serait possible d'imaginer un type de rationalité qui soit susceptible de briser le cercle tautologique de la raison critique et d'en dépasser l'horizon policier au profit de celui de l'activation de possible qui ne soit pas destiné à se heurter au mur de l'impossible absolu. Là, vous ouvrez un horizon qui nous ferait, enfin, qui, on serait obligé, ça nous contraindrait à imaginer un autre type de rationalité dans lequel penser avec le scandale, s'indigner sans cesse, ne serait pas la bonne solution.
Oui, absolument. Pour pouvoir comprendre ça, je pense qu'il est relativement important de garder à l'esprit le fait que la raison, malgré que cela semble être un de ces concepts comme cela, brillant d'éternité, auréolé comme ça d'un prestige, qui est un prestige qui semble venir du fond des âges, la raison est un concept qui a une histoire. Et certains philosophes, je pense par exemple à François Châtelet, ont pu raconter comme ça une histoire de la raison qui, depuis, disons, l'Antiquité à nos jours, s'est métamorphosée, transformée, etc. De sorte que la raison que nous utilisons aujourd'hui, la machinerie que nous utilisons aujourd'hui pour équiper nos pensées, équiper nos discussions, et donc équiper à travers nos pensées, nos discussions, nos relations au monde, eh bien, cette raison-là, c'est pas la raison des Grecs, hein. C'est pas non plus la raison du Moyen-Âge, c'est pas la raison renaissante, c'est une raison qui est porteuse d'un héritage, qui est un héritage qui est plus proche de nous, et un héritage dont moi j'aurais tendance à croire que le chaînon décisif, ou en tout cas l'opération décisive, a été menée par cette immense figure de la modernité, bien évidemment, qui a été Emmanuel Kant. Emmanuel Kant est celui qui dit, en ouverture de sa première critique, on est juste avant la Révolution française, qui dit dans ses préfaces qu'il est temps de sortir effectivement du sommeil dogmatique de la raison, du sommeil de la raison dogmatique, et d'embrasser une nouvelle forme de rationalité, une rationalité qui n'est plus une rationalité qui tente de défendre des articles de foi, hein, qui tente de justifier les articles de foi, mais au contraire une raison qu'il appelle critique, c'est-à-dire une raison qui se donne les moyens de se retourner contre ce qu'elle pense pour pouvoir en juger. Et l'opération essentielle que Kant introduit dans l'histoire de la raison, c'est cette opération-là, c'est l'opération du jugement. Le jugement, c'est-à-dire l'opération de la critique au sens où critique, crisis en grec, c'est effectivement le moment du jugement. Le jugement qui peut être d'ailleurs assez intensifié, hein, assez intense, ça peut être le moment du jugement dernier. C'est l'instance même de la décision finale qui va tomber sur votre cas. Eh bien, la raison critique comme raison qui vise à juger est effectivement cette raison qui donne au sujet qui pense la capacité d'exercer ses facultés de telle manière que la réalité que ce sujet rencontre soit mise en position de pouvoir effectivement être jugée. La réalité est quelque chose qui est placé d'une certaine manière sous notre regard, sous le regard que nous pouvons déployer en exerçant nos facultés, de telle sorte que la réalité, quelle qu'elle soit, devient d'une certaine manière la victime presque de notre regard. Notre regard est toujours plus puissant que ce que l'on regarde. C'est l'opération absolument géniale, prodigieuse et d'une ampleur considérable et dont les conséquences seront considérables à travers l'histoire. L'opération prodigieuse que Kant réalise, c'est de conférer au sujet pourtant fini une espèce de toute-puissance dans sa relation au monde, ou en tout cas une toute-puissance dans sa capacité à qualifier le monde, c'est-à-dire à en dire, dans le cas du jugement de goût, si ça me plaît ou si ça ne me plaît pas, dans le cas du jugement moral, effectivement, si c'est conforme à la maxime catégorique ou pas, dans le domaine du jugement politique, dans le domaine du jugement juridique, etc., etc. Dans tous les domaines, d'une certaine manière, quelque chose comme un jugement se trouve remis, ou une capacité à juger se trouve entre les mains du sujet, une capacité qui, au fond, ne peut jamais être démentie par ce que l'on juge. On peut être démenti par des faits si jamais on formule une thèse. Mais lorsqu'on formule un jugement, ce jugement ne peut être démenti par rien. Et effectivement, la critique comme modalité de la raison, comme modalité suprême de la raison dans la modernité, est effectivement quelque chose qui nous met dans une position, qui est une position de suprématie absolument effrayante et absolument angoissante, et une position de suprématie qui nous, en fait, nous rend fous. Et on se rend compte aujourd'hui, je pense, avec ces différentes figures d'indignation, avec le triomphe contemporain de l'indignation et l'espèce de folie dans laquelle nous sommes tous pris quand effectivement nous ouvrons notre Facebook ou quand nous lisons les journaux, si nous lisons encore les journaux, ou lors de conversations que l'on a à gauche et à droite, cette espèce de moment de dinguerie comme ça que nous avons l'impression de vivre, eh bien moi j'aurais tendance à croire que ce moment de dinguerie provient précisément de la capacité que nous avons reçue à être toujours plus fort que ce que nous rencontrons, d'une certaine manière. Nous sommes devenus des espèces de super-héros, si vous voulez, des super-héros de la raison. Et cette raison, d'une certaine manière, est aujourd'hui ce qui justifie aussi bien les positions les plus pondérées que ce qui justifie, au nom de l'argumentation, au nom de l'échange, au nom de la discussion, les positions les plus complètement délirantes. Il n'y a pas plus rationnel, si j'ose dire, à tous les sens du terme, que, je ne sais pas moi, un platiste, par exemple, les gens qui croient que la Terre est plate, ils ont des arguments à ne plus savoir qu'en faire pour pouvoir justifier leur position et dans le respect le plus strict des règles de la rationalité. Qu'effectivement, du point de vue du fait, ce soit complètement délirant, ça devient complètement insignifiant par rapport à l'usage, si vous voulez, du fait à l'intérieur de l'espace de la raison critique, qui est un usage contre lequel on ne parvient pas à se battre. C'est le grand dame, si vous voulez, le grand désespoir de tous les rationalistes aujourd'hui, c'est qu'ils sont pris au dépourvu face à effectivement des complotistes, face à des platistes, face à des, je ne sais pas moi, des créationnistes, qui n'ont aucun moyen de faire face. Et j'ai envie de dire, c'est normal, parce que l'instrument même dont ils croient qu'ils pourraient l'utiliser pour faire face, eh bien, cet instrument est précisément ce qui creuse leur tombe, ou ce qui creuse la tombe du rêve d'échange et de rationalité qu'ils croyaient pouvoir défendre. C'est pour ça que je pose la question, mais c'est une question véritablement que je pose dans le livre, de savoir s'il ne serait pas temps de refaire un pas de plus dans l'histoire de la raison, et de nous rééquiper avec une forme de rationalité qui serait une rationalité qui nous ferait sortir de cet équipement en « mais, donc, car, etc. » que d'une certaine manière je critique à mon tour dans mon livre à travers ces différents cas de scandale, au profit d'une autre forme.
Alors,
qui serait une
justement.
Forme dont je ne prétends pas donner, hein, je n'ai pas écrit une critique de la ou une clinique de la raison critique ou que sais-je, enfin je n'ai pas écrit une espèce de bible qui pourrait remplacer Kant, c'est juste une espèce d'intuition que j'ai envie de partager ou une proposition que j'ai envie de faire.
Alors je voudrais qu'on parle justement de cette intuition, parce qu'elle est vraiment importante. Là vous avez bien catégorisé, Laurent de Sutter, ce monopole de la raison. Et effectivement, il y a un moment de votre livre où vous parlez de Kant et vous expliquez effectivement à quel point il s'est passé quelque chose à ce moment-là. Et donc, toujours dans votre conclusion, vous écrivez « Mais à quoi pourrait ressembler une rationalité qui renoncerait à la raison ?» Déjà, vous utilisez un terme et qui pourrait être une possibilité. Vous dites « Une rationalité qui ferait disjoncter la raison. » Moi, j'aime beaucoup ce terme. Et ensuite, vous écrivez « Une telle rationalité pourrait alors proposer une manière de se positionner dans le monde qui aurait la modestie de ne pas se présenter comme supérieur par rapport aux autres, mais au contraire comme inférieur, plus faible, comme indigne plutôt qu'indigné. » Et là, vous écrivez « Imaginez une rationalité indigne, une rationalité qui ne tenterait pas en permanence de se draper dans la noblesse qu'elle aimerait se voir reconnue, mais errerait plus ou moins dépenaillée dans les ruines du monde en attendant de pouvoir se rendre utile, mais sans savoir si elle en aura jamais la moindre chance. »
Oui, exactement. Si vous voulez, la proposition que j'ai envie de faire est une proposition qui fait pivoter sur elle-même la position de regard qui est la nôtre. Au fond, la raison critique, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle regarde toujours dans le rétroviseur, puisqu'il s'agit de venir juger post hoc, de venir juger quelque chose qui a déjà eu lieu. Ce pourquoi j'aimerais militer, si j'ose dire, ce serait pour une forme de rationalité. Je ne sais même pas si le mot rationalité est le bon mot, et s'il faudrait encore utiliser le mot de rationalité ou le mot de raison, mais en tout cas une forme de d'établissement de relation de pensée avec ce qui est et avec ce qui nous entoure, qui regarde vers l'avant plutôt que regarder vers l'arrière, c'est-à-dire qu'il regarde du côté de la production de conséquences que l'on peut imaginer une fois que l'on a rencontré un phénomène, ce qui implique en effet de se situer dans une position qui est une position non pas de maîtrise du phénomène, mais au contraire de l'acceptation l'être affecté par ce phénomène. C'est le phénomène, la chose, la personne, la phrase que vous rencontrez qui devient première, parce que c'est elle, d'une certaine manière, qui vous guide, ou en tout cas qui suscite en vous, chez vous, pour vous, la possibilité d'une pensée qui soit une pensée qui ne soit pas précodée, prédéterminée par les partages du monde. Donc, si vous voulez, ce serait l'idée d'une raison qui serait une raison qui s'abandonnerait au sens presque, j'ai envie de dire, comment dirais-je, yogique du terme. Je ne suis pas du tout pour le développement personnel et je ne suis pas un grand spécialiste ni même un grand amateur de spiritualité, mais enfin, il y aurait quelque chose comme cela, une forme de laisser aller au mouvement des choses qui plutôt que de les contrôler, accepterait en permanence de sauter, d'une certaine manière, de sauter, effectivement, de disjoncter, c'est le mot que j'utilise, c'est-à-dire de partir toujours ailleurs plutôt que de continuer à creuser en permanence le même sillon, de telle sorte que les différentes opérations qu'on mentionnait tout à l'heure, hein, les opérations liées à tous ces opérateurs grammaticaux qui renvoient au fond à la manière dont la raison nous ramène toujours à nous-mêmes d'une certaine manière, c'est-à-dire faire en permanence notre identification et faire en permanence au fond notre narcissisme, pourrait devenir un opérateur de désidentification, c'est-à-dire un opérateur de devenir qui, plutôt que de nous renvoyer toujours à notre condition de sujet pensant, nous obligerait, dans la rencontre avec ce que nous rencontrons, à au fond nous transformer. Pour cela, il me semble, en tout cas, il faudrait, j'ai aucun ordre à donner à qui que ce soit et j'ai aucun cahier des charges, si vous voulez, à vendre, mais il me semble qu'il serait intéressant, voilà, ce serait une formule plus juste, il serait intéressant aussi d'imaginer des formes même de pensée qui, plutôt que de fonctionner sous la forme de cette sentence que la raison donne et qui vont ensuite chercher leur justification dans les tréfonds, dans la merde du monde, pour aller voir quelle est la raison véritable qui justifie comment dirais-je, tel geste de politicien, telle politique de grande compagnie dégueulasse, etc., de se poser la question de savoir mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça plutôt que d'aller regarder encore et toujours dans les poubelles du monde qui sont pleines, hein, pour tenter d'y déceler ce que D.H. Lawrence appelait le sale petit secret. Est-ce que, sachant que ces sales petits secrets, en l'occurrence, ne nous surprennent plus du tout, nous sommes complètement blasés des sales petits secrets, nous savons qu'il y a partout un sale petit secret, si vous voulez, ou une saloperie qui se cache, sachant cela, et que faire, d'une certaine manière, de l'existence de ces secrets, que faire des pouvoirs ou des puissances qui nous restent à l'intérieur de l'espace borné du possible et de l'impossible que la raison a de surcroît pour but de garantir encore davantage. Au fond, une raison, si vous voulez, qui serait une raison qui s'orienterait intégralement vers la potentialisation de nos existences, vers le devenir et donc aussi vers la séparation par rapport à nous-mêmes et l'abandon aussi de nous-mêmes par rapport à nous-mêmes, une espèce de raison qui accompagnerait nos transformations plutôt que garantir nos points de vue, que garantir nos idées, que garantir nos convictions, que garantir ce que nous sommes ou ce que nous croyons être.
Et c'est vraiment une grande question, que faire ? Et effectivement, vous avez, je trouve mille fois raison à la lecture de votre essai, Laurent de Sutter, mais il y a un problème, et vous l'évoquez vous-même à la fin de votre conclusion, et c'est là où vous revenez à votre précédent livre que j'avais beaucoup aimé en 2017, pour lequel je vous avais interviewé, « L'âge de l'anesthésie, la mise sous contrôle des affects ». Vous écrivez, c'est la raison pour laquelle, de manière inattendue, l'indignation est l'affect premier de l'âge de l'anesthésie. Il est ce qui accompagne dans ce champ affectif l'organisation générale de la dépression de nos sociétés, en ceci que nous scandaliser et ce qui nous reste pour nous donner la sensation que nous sommes en vie. Pour le dire en d'autres termes, l'indignation est le sursaut vital du dépressif dont les médicaments ont arasé toutes les autres émotions. Et forcément, alors, la question de que faire, que vous venez de poser, qui me semble aussi cruciale, elle n'arrive pas à son terme.
Non, elle n'arrive pas à son terme dans le cadre de l'indignation, puisque, comme je vous l'ai dit, l'indignation se nourrit même de la raison. Elle est l'enfant naturel de la raison. Elle est ce qui en offre, si vous voulez, l'incarnation aujourd'hui la plus, pour moi, la plus parfaite. Et c'est en ce sens-là qu'elle me pose problème, si j'ose dire, ou que je la trouve problématique. On il faudrait aussi peut-être imaginer du coup une forme d'alignation qui précisément se nourrisse d'un autre équipement de pensée que l'équipement de la que cet équipement de la raison nous renvoyant toujours à notre condition de sujet, parce que en effet en tant que tel, si elle nous renvoie toujours à nous-mêmes, il va de soi que cette indignation rationnelle, en effet, contribue à ce processus général d'anesthésie, qui est une anesthésie non seulement psychopolitique, mais une anesthésie aussi chimique, qui est celle de nos sociétés. Il faut savoir, ou il faut se rappeler d'une chose quand même relativement importante, lorsqu'on parle d'anesthésie ou d'anesthésie et de psychologie, si vous voulez, anesthésiée, ou de dépression, c'est que l'horizon dans lesquelles les premières recherches à la fin du 19e siècle se sont déployées sur ce sujet, c'était aussi un horizon de contrôle des individus. Il s'agissait c'est l'horizon de la maladie mentale et de ce que les premiers psychiatres de l'époque appelaient psychose maniaco-dépressive, de se dire comment faire pour que les maniaco-dépressifs ne partent en vrille en permanence, c'est-à-dire comment faire pour contrôler les phases maniaques des maniaco-dépressifs, que ce soit individuellement, mais que ce soit aussi, et surtout, j'ai envie de dire, collectivement. Et le réflexe, déjà à l'époque, c'était de dire ce dont on ne veut pas, c'est que, et c'est un mot qui est utilisé par le grand psychiatre de l'époque, qui s'appelait Émile Crépelin, qui est l'inventeur de la catégorie de psychose maniaco-dépressive et aussi des manières de le traiter, qui sont encore d'ailleurs en vigueur toujours aujourd'hui, Émile Crépelin disait ce qu'il faut éviter, c'est la irassign, ce qu'il faut éviter, c'est l'errance de l'être. C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est reconcentrer les êtres humains sur leur être. Et c'est pour ça que ce livre ici, Indignation totale, effectivement la continuation d'une certaine manière de l'âge de l'anesthésie, parce que là où l'être me paraissait une catégorie métaphysique qui inscrivait nos corps ou nos vies dans un espace qui est un espace de police, la police du être soi-même, soyez vous-même, et surtout ne dérapez pas, ne faites pas sauter les limites de votre être, surtout ne devenez pas autre chose que vous-même, mais restez à votre place, quelque part l'indignation est quelque chose qui aide et contribue au maintien dans son aspect rationnel, contribue à cet ancrage sur l'être, un être qui en plus possède la raison pour pouvoir défendre son être. Donc moi ce pourquoi je milite, c'est évidemment une forme de déraison, ou une forme de raison indigne, ou qui disjoncte, qui renverrait à une disjonction de l'être aussi, c'est-à-dire une manière de faire exploser les limites de notre être pour explorer des espaces qui sont des espaces qui ne sont pas contraints par cette catégorie, qui est une catégorie dont on a pu imaginer qu'elle était une catégorie de la haute philosophie, c'est Heidegger qui chantait toujours les vertus de l'être, etc. Mais dont on se rend compte en réalité en lisant les manuels de développement personnel que l'être c'est l'horreur pure aujourd'hui. Et d'une certaine manière, la raison moderne est devenue le meilleur allié de cette horreur, et donc le meilleur allié au fond d'une espèce de management généralisé de nos vies qui, de temps en temps, se donne le droit et le luxe de lâcher un peu de lest en s'énervant sur l'un ou l'autre sujet, mais sans jamais véritablement passer outre cette inscription dans les frontières de la police du possible et de l'impossible qui forment notre condition contemporaine.
Au fond, Laurent de Sutter, et pour conclure, avec un peu la vision d'ensemble que j'ai de vos différents livres et de vos travaux, j'ai l'impression que votre conclusion, c'est aussi ce qui pourrait rassembler l'ensemble de vos livres et qui fonderait votre recherche. Quand je lis, par exemple, cette phrase « Ce dont nous avons besoin, ce n'est pas d'une raison qui confirme ou infirme, mais d'une raison qui puisse équiper nos expérimentations théoriques, politiques, esthétiques, morales et scientifiques », j'ai l'impression de lire votre programme de recherche, votre programme d'essayiste, votre programme de penseur, de philosophe pour les 40 années à venir.
Et même sans doute davantage, d'autant plus que c'est un programme de recherche dont je ne prétends pas du tout avoir ni le monopole ni l'avoir inventé. Je pense que c'est un programme qui doit beaucoup à la figure de Gilles Deleuze. C'est un programme qui doit beaucoup aussi à celle qui a été ma maîtresse en philosophie, qui est Isabelle Stengers. Mais c'est vrai que je ne veux pas céder sur la possibilité que la pensée nous amène ailleurs, qu'elle puisse équiper nos expérimentations plutôt que équiper nos peurs, nos volontés de gestion, nos volontés de policer le monde. C'est vrai que je rêve d'une grande politique de l'expérimentation qui s'oppose à la police de la garantie et de la légitimité. Oui.
Eh bien, merci beaucoup de vos réponses et d'avoir été en direct par téléphone avec nous, Laurent de Sutter. Merci beaucoup.
Ben, merci à vous.